Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, c'est fait, la fumée s'est dissipée, l'Église catholique a un nouveau pape et il est américain. Qu'en pense le Canada et les Canadiens?
Il va certainement imprimer un nouveau style dans l'Église. On a un vrai pape boomer, là.
Habitat pour l'humanité va construire près d'une vingtaine de nouvelles unités de logement abordables à Miramichi l'an prochain.
C'est un enjeu primordial pour les gens de Nouveau-Brunswick.
Réforme de l'aide sociale au Québec, on n'est pas des vidanges, clament les manifestants.
Ça manque d'humanité de couper les allocations à ces personnes-là.
Moi, regarde, la semaine passée, j'ai payé mon loyer. Pour manger, j'ai été volé chez Maxi de payer le moins cher. Ça n'a pas d'allure, là.
On fait une place à la jeunesse et à l'enfance avec trois reportages aujourd'hui. À Toronto, l'école élémentaire catholique du Bon Berger fête ses 10 ans. Les Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse fêtent leur 40e.
On est fiers puis on est prêts à donner un goût de notre région à tout le monde de la province.
Et des élèves de la 6e année plongent au cœur de la culture Innu et se rincent les yeux au Salon du Livre de la Côte-Nord.
C'est rare qu'on fait des voyages comme ça à Fermont.
J'ai beaucoup aimé le Salon du Livre, mais j'ai aussi beaucoup apprécié le voyage en train entre Emery et les Sept-Îles. Ça rend notre 6e année encore plus mémorable puis ça nous a permis d'être encore plus autonomes.
J'espère qu'ils vont garder en tête toutes les valeurs d'ouverture puis de respect que j'essaie de leur transmettre depuis le début de l'année.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là. Ici Boris Chassaigne, je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure. Ben ça y est, vous comme moi, on l'a vu, la fumée s'est dissipée au deuxième jour du conclave de l'Église catholique de Rome où un nouveau pape a été nommé. L'Américain Robert Francis Prévost, devenu Léon XIV, est donc le premier pape originaire des États-Unis. Il succède au pape François, décédé durant le dernier congé de Pâques. En ces temps troubles où le torchon brûle entre le Canada et les États-Unis, dans un contexte de guerre tarifaire et géopolitique. Que pense Ottawa de la venue du pape Léon XIV, dont on dit qu'il serait proche des idées de son prédécesseur François, qui était, lui, considéré comme un progressiste modéré? Bien, pour Martin Meunier, professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa, la nomination d'un pape nord-américain annoncerait un changement de ton de l'Église, lequel, ça reste à voir. Puis, le public ottavien est-il aussi de cet avis? Gabriel Poulet à Ottawa est allé à leur rencontre pour en savoir plus.
La fumée blanche au Vatican l'a confirmé. L'Américain Robert Francis Prévost a été élu le 267e pape de l'Église catholique. À 69 ans, il succède à François sous le nom de Léon XIV. Premier pape de l'histoire originaire des États-Unis, Léon XIV a été choisi au deuxième jour d'un conclave particulièrement ouvert avec un nombre record de 133 cardinaux électeurs. Proche des idées de son prédécesseur François, le nouveau pape est considéré comme un progressiste modéré. Selon Martin Meunier, professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa, le choix des cardinaux s'inscrit donc dans une certaine continuité.
Il va certainement imprimer un nouveau style dans l'Église. François était un peu débonnaire, très humoristique. Parfois avait des coups de gueule, des coups de tête. Il pouvait avoir des colères aussi. Lui semble beaucoup plus stabilisé. D'une certaine façon, on voit qu'il semble avoir un caractère transigeant. Et c'est pas pour rien qu'il a été nommé, parce que pour être élu, il faut avoir les deux tiers de l'Assemblée. Et à quelque part, ça promet pour l'Église, en même temps que là, l'Église a choisi non pas la révolution, mais la continuité dans le changement.
Il ajoute également que la nomination d'un pape nord-américain pourrait, en soi, représenter un changement de ton. Selon lui, Léon XIV pourrait être plus sensible aux réalités du pluralisme, de la diversité religieuse et des débats sociaux propres aux sociétés comme le Canada.
On a un pape qui a un certain âge, 69 ans. Ça, il faut en parler. C'est la première fois qu'on a des papes de cette génération-là. On a un vrai pape boomer, là, qui connaît les Rolling Stones, qui a dansé à Twist and Shout. Parce que souvent, quand on pense au pape, quand on pense à l'Église, on a l'impression que ces gens-là vivent dans un précambrien, à quelque part, dans les années 1840. Mais non, celui-ci, il est là, il est notre contemporain, d'une certaine façon. Moi, je crois que cet aspect générationnel-là pourrait être aussi important que des aspects la nationalité.
Dans la capitale nationale, les réactions sont partagées, mais souvent marquées par la curiosité. Questionnés sur le nouveau pape, des résidents d'Ottawa nous ont partagé leurs impressions.
Il a une grosse influence sur le monde, donc je pense que ça donne un ton à comment on regarde des choses comme le changement climatique ou les personnes du LGBT ou les immigrants ou les réfugiés. Donc je pense que c'est important pour juste le climat de ces problèmes.
C'est cool que c'est le premier pape américain. C'est juste, ça va être intéressant à savoir qu'est-ce que Trump va faire avec.
Hey, I feel like there's been a lot about Americans in like general media, yeah. And I don't think it's been good. Like, I don't know.
But I don't know. I feel like worldwide, whatever the Pope says does have an impact.
Mm-hmm.
Il confirme et dirige les valeurs de l'Église. Alors, tu sais, ça a quand même eu un effet remarquable dans les dernières papautés qu'on a eues. Là. C'est plus gauche dernièrement. Là, je sais pas. Je pense qu'il y a actually pas mal de gauche apparemment s'est positionné contre Trump.
Ouais.
Contre...
Sur Twitter, le pape a Twitter.
Okay. Oh, yeah.
Ouais, c'est bon pour
Elon.
Gabriel Poulin, IGL, Ottawa.
Bonjour, ici Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. Tous nos journalistes vous attendent sur fréquenceinfo.ca.
On se tourne du côté du Nouveau-Brunswick où Habitat pour l'Humanité a annoncé la mise en chantier d'un projet de quelques 20 unités de logement abordable. Ceci s'est produit quelques jours après l'inauguration de deux nouvelles unités de logement. Le développement sera situé près de la Railway Avenue de Newcastle sur une toute nouvelle rue qui devrait être construite d'ici l'année prochaine. Une première d'ailleurs pour l'organisme. Le député libéral provincial Sam Johnston se réjouit de la nouvelle et affirme que le gouvernement de Susan Holt prend la crise du logement très au sérieux. Vincent Lavoie à Miramichi au Nouveau-Brunswick.
Habitat pour l'Humanité Nouveau-Brunswick a mis la table pour un nouveau développement de logements abordables à Miramichi. Voici Perry Kendall, directeur général d'Habitat pour l'Humanité Nouveau-Brunswick.
Up to 20, yeah, it's somewhere between 18 and 20. And yeah, just off Railway Avenue. So a new road is being built. For the first time, we got to name a street. So we've named it after the donor, Northumberland. So it's Northumberland Way, and we're really excited about this project.
Jusqu'à 20 unités de logement pourraient voir le jour sur une toute nouvelle rue qui devrait être construite cet été ou plus tôt, à proximité de Railway Avenue à Newcastle. Ce sera la première fois que l'organisme de bienfaisance aura à nommer une rue. Pour ce faire, en guise de remerciement à l'entreprise qui a fait un don substantiel pour la création des nouvelles unités, le nom choisi est Northumberland Way. Le député de baie de Miramichi-Négouac, Sam Johnson, se réjouit de cette nouvelle.
C'est un enjeu primordial pour les gens de Nouveau-Brunswick parce que le taux de la vie maintenant est plus haut et on secure et chaud place de vivre. Ça, on doit que le gouvernement Holt respecte tout.
Selon M. Kendall, le projet a été rendu possible grâce à la volonté du maire de Miramichi, Adam Lorden, pour accélérer la mise en chantier des nouvelles constructions qui devraient commencer au printemps prochain. Ici Vincent Lavoie pour IGL à Miramichi.
Bonjour, ici Robert Savard à Shawinigan, au Québec. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
De Miramichi au Québec, maintenant, 6 mois après son adoption à l'Assemblée nationale du Québec, la réforme de l'aide sociale continue de susciter la grogne. Plus d'une cinquantaine de personnes se sont rassemblées mercredi à Québec pour dénoncer la fin de l'allocation pour les mères monoparentales et les plus de 58 ans. Des bénéficiaires et intervenants déplorent également que l'allocation de base d'environ 800 $ n'ait pas été augmentée. Les détails avec Alice Zanetta à Québec.
Dans la dignité, des prestations qui couvrent l'ensemble de nos besoins de base. Ouais!
Chaque mois, les mères monoparentales ou les personnes âgées entre 58 et 64 ans, bénéficiaires de l'aide sociale, verront leur chèque amputé de 160 $ par mois.
Je sais que pour beaucoup de personnes, 160 $ par mois, c'est pas énorme, mais pour quelqu'un qui essaie de survivre avec 829 $ par mois, c'est très, très dur d'y arriver, de couvrir le loyer, de manger, surtout plus tard dans le mois.
Même si le projet de loi sur la réforme de l'aide sociale a déjà été sanctionné en novembre dernier, Steve Baird, du Front commun des personnes assistées sociales du Québec, croit qu'il est important de continuer à manifester contre ces coupes.
Ça manque d'humanité de couper les allocations à ces personnes-là. Les gens ne sont pas là par choix, ils sont là parce que ça va mal dans leur vie.
Pour rappel, les allocations supplémentaires liées aux contraintes temporaires à l'emploi sont abolies pour les futurs demandeurs de l'aide sociale. Actuellement, ce sont plus de 30 000 Québécois qui en bénéficient avec une clause grand-père. Ces coupes, explique le gouvernement Legault, permettent de financer des programmes de retour à l'emploi, mais tous les prestataires de l'aide de dernier recours ne sont pas prêts à retourner sur le marché du travail, selon Steve Baird.
De dire que ces personnes-là, ils peuvent aller se trouver un job, je trouve que ça relève plus du préjugé que de la réalité de ces gens-là, malheureusement.
Geneviève Kelly, une résidente de Lévis, reçoit de l'aide sociale après un épuisement au travail, des problèmes de santé mentale et une fibromyalgie.
Moi, j'étais la personne qui voulait vraiment beaucoup travailler, peut-être même trop, et j'avais pas plus ou moins des parents avec moi pour m'aider, donc je m'aidais toute seule. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'étais rendue à plus être capable de vivre, puis être capable même quasiment de m'acheter du papier de toilette. Tu sais, il y a des maladies invisibles, puis ça paraît pas. T'sais.
Geneviève Kelly est venue manifester car elle se sent lésée par le gouvernement qui n'a pas choisi d'augmenter le revenu de base de quelques 800 $ par mois.
On n'est pas des vidanges. On veut faire de quoi? On veut redonner à la société. Je peux faire quelque chose. Je peux travailler quand même un peu pareil à ma façon.
L'aide sociale ne fait pas tout. Geneviève Kelly reconnaît que l'accès à un logement social a changé sa vie.
Social, c'est sûr.
C'est ce qu'espère depuis plusieurs mois Pascal, qui est passé par l'itinérance.
On est fait, mais il y a des listes d'attente. Faut quasiment... C'est plutôt à dire, pour attendre que quelqu'un meure pour prendre sa place. Ça n'a pas de sens.
En attendant, le revenu de base de l'aide sociale de quelques 800 $ par mois ne permet pas à Pascal de vivre décemment, ni d'avoir une stabilité résidentielle.
Moi, regarde, la semaine passée, j'ai payé mon loyer. Pour manger, j'ai été volé chez Maxi. J'ai payé le moins cher. Ça n'a pas d'allure. On nous oblige de vivre dans une criminalité, de devenir avec des problèmes de santé mentale à cause d'un système qui fuck le chien. Ça n'a aucun sens.
Avec sa réforme de l'aide sociale, le gouvernement compte ramener 50 000 personnes sur le marché du travail, sur les quelques 288 000 prestataires de cette aide de dernier recours. En 20 ans, le nombre de prestataires a diminué de 40 % si l'on ne tient pas compte des demandeurs d'asile qui ont recours à l'aide sociale le temps d'avoir un permis de travail. Alisa Netta pour IJL à Québec.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Et place aux jeunes et aux enfants maintenant. On vous l'a déjà dit, ils sont tellement absents du paysage radiophonique que quand on les a, bien on en profite. Et pour vous les présenter, on s'arrête en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec. On donne ce week-end le coup d'envoi des 40e Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse. Ça se passe dans la région de Paramba du 15 au 18 mai. 11 régions de la province seront représentées lors de ces Jeux régionaux et plus de 800 athlètes vont participer à des compétitions d'athlétisme, de badminton, d'improvisation et de mini-handball, et aussi de soccer, d'ultimate frisbee, de vélo de montagne, de volleyball, de pickleball, et j'en passe. Les Jeux de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse cherchent en fait à promouvoir la participation des jeunes aux activités sportives et aussi à inspirer une fierté envers la culture acadienne. Chris Froughton, président du comité organisateur, souhaite que les Jeux régionaux 2025 permettent aux jeunes de forger de nouvelles amitiés et qu'ils puissent y vivre des moments inoubliables. Daniel Aucoin.
On reçoit le président du comité organisateur des Jeux régionaux, Chris Froughton. Bonjour.
Bon matin.
Alors, on est à quelques jours du début des Jeux régionaux 2025. Est-ce qu'on est prêt chez vous à accueillir les athlètes, les accompagnateurs de partout en Nouvelle-Écosse?
Oui, ça commence à rouler. On fait les derniers préparatifs pour nous organiser pour accueillir tous les participants et participantes et leurs équipes d'encadrement et les visiteurs pour la fin de semaine. Donc oui, ça roule bien.
On peut dire que les gens de Parambois ont vraiment mis la main à la roue pour préparer les Jeux régionaux cette année?
Ah oui, certainement. Ça fait 19 ans depuis la dernière fois qu'on a accueilli les Jeux régionaux. Donc la région, les résidents, le comité organisateur et nos bénévoles sont très excités à l'avoir de nouveau. On a eu la finale en 2012, donc ça fait pas 19 ans depuis que les Jeux sont rendus chez nous, mais quand même, on est très excités d'accueillir tout le monde chez nous cette fin de semaine. Puis ça fait quelques mois, ça fait depuis vraiment juin de l'année passée qu'on se prépare. Évidemment, il y a toujours des petits défis ou des petits problèmes à régler rendus à la dernière minute, mais quand même, tout est bien organisé, tout est bien en place. Puis, ouais, on est très excités d'accueillir tout le monde cette fin de semaine.
Chris, les athlètes, on parle de 800 jeunes, ils auront la chance de goûter, de découvrir la culture acadienne de Parambois?
Oui, pour sûr. On est très honoré puis on est très chanceux d'accueillir la 40e édition des Jeux régionaux. Donc, en plus de la programmation régulière des Jeux de l'Acadie en Nouvelle-Écosse, en tant que programmation sportive et culturelle, on a des initiatives spéciales pour commémorer la 40e anniversaire qu'on est très chanceux de pouvoir offrir. En tant que cette année, on va avoir des médailles pour tous les gagnants de tous les sports puis les activités culturelles. On va accueillir la compétition d'athlétisme la même fin de semaine que les Jeux régionaux. Donc d'habitude, c'est la fin de semaine avant. Donc un peu d'un hommage au passé. Quand les deux compétitions se déroulent en même fin de semaine, on va le faire le dimanche. On a une compétition culinaire cette année pour essayer de promouvoir ou de inclure les jeunes dans l'histoire culinaire de la culture acadienne et francophone. Donc ouais, on est fiers puis on est prêts à donner un goût de notre région à tout le monde de la province.
En Nouvelle-Écosse, c'est le comité provincial des Jeux de l'Acadie qui chapeaute l'organisation des Jeux régionaux et la participation de la province à la finale. Chaque année, un comité organisateur local composé de bénévoles de la communauté hôtesse planifie tous les aspects de la fin de semaine régionale. Les Jeux régionaux permettent aux jeunes de vivre une première expérience rassembleuse dans leur propre province et pour plusieurs d'entre eux, de se qualifier ensuite pour représenter la Nouvelle-Écosse à la grande finale des Jeux de l'Acadie qui aura lieu cet été à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chéticamp.
Bonjour, ici Elisabeth Séguin à Fermont, sur la côte nord du Québec, et vous écoutez Point de vue.
En Ontario maintenant, l'école élémentaire catholique du Bon Berger, située sur l'avenue Jones dans le quartier de Leslieville à Toronto, a célébré le 9 mai dernier son 10e anniversaire. La cérémonie organisée dans le gymnase de l'établissement a rassemblé les élèves, les parents, les membres du personnel et plusieurs dignitaires, dont des députés et des conseillers scolaires. La célébration a débuté par une liturgie traditionnelle, suivie de prestations musicales offertes par les élèves, des allocutions officielles ont ensuite ponctué l'événement et souligné l'engagement de l'école envers l'enseignement francophone à Toronto, Annette Minka.
L'école élémentaire catholique du Bon Berger fête ses 10 ans d'existence, 10 années d'histoire pour cette école francophone située dans le quartier Leslieville à Toronto, qui a vu naître ses premières classes de maternelle et de jardin d'enfants en septembre 2014. À 10h du matin, la cérémonie a débuté avec l'hymne national chanté par les élèves, puis une liturgie présidée par le père Gustave Noël Inéza, avant d'à nouveau laisser place aux voix enjouées des écoliers. prises de parole se sont succédé conseillers scolaires, directrice de l'éducation du conseil Mon Avenir, députés fédéraux et provinciaux sont venus souligner l'importance de cette école dans le paysage éducatif torontois.
Et c'est tellement important. Nous avons les deux langues officielles partout au pays. Je le vois, moi je suis née à Montréal, là j'ai bien vécu du côté de Québec, mais quand je suis venue ici, à Toronto.
À la tête de l'établissement depuis 2 ans, la directrice Linda Saint-Louis a guidé les festivités d'un bout à l'autre. Elle revient sur un moment fort de son mandat.
Les moments forts, je dirais, c'est dans les dernières 2 années, on a eu une hausse au niveau des inscriptions ici dans l'école. Donc, nos effectifs ont augmenté. Donc, c'est une très bonne chose.
En effet, en 10 ans, l'école a connu une croissance remarquable. De 2 classes à ses débuts, elle en compte désormais 5, un signe d'intérêt grandissant pour la francophonie à Toronto. Pour Julie Dabrouzin, députée libérale de Toronto-Danforth, ce succès n'est pas un hasard.
On voit ici à Toronto comment ça grandit, la communauté. Alors maintenant, nous avons Mosaïque, un peu plus au nord, ici Bonberger. Ça montre qu'il y a une communauté forte qui veut une éducation en français. Côté fédéral, on a mis déjà des renforcements pour les garderies en français. Je pense qu'on doit faire plus pour les universités francophones ici pour qu'il y ait un avenir pour les étudiants. Et pour moi, je suis toujours prête à travailler avec les parents et les étudiants à trouver comment on peut appuyer.
Un constat partagé par Réa Dechaine, conseillère scolaire du Conseil Mon Avenir pour Toronto-Ouest, qui voit dans cette dynamique une occasion de renforcer l'enseignement francophone, notamment au niveau secondaire.
Je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui avec la communauté de Bonberger pour célébrer 10 ans. Comme j'avais dit dans mon discours, mon fils il était allé à Georgetown-Cartier, c'était le dernier groupe de maternelle. Alors je pense que les familles ici sont très chanceuses d'avoir une école spécialement conçue pour les tout-petits. Mes enfants sont dans le conseil depuis 2012. Je vois vraiment des francophiles qui s'en viennent dans nos écoles et je suis très contente de voir, même si les familles sont un parent francophone et un parent anglophone, c'est très bien de voir ceux qui s'intéressent dans la langue et qui voient là, vraiment comment ça bénéficie la vie pour les élèves. Ça fait 10 ans que notre priorité, c'est d'ouvrir une école secondaire dans la région de Toronto-Est. Ben, si je peux parler de moi personnellement, mes enfants, ils font traverser la ville d'aller jusqu'à College et Lansdowne pour l'école secondaire. Ça fait 1 an qu'on a déménagé pour nous rapprocher à l'école. Alors, je veux pas que les familles se sentent qu'il faut déménager pour rester dans une de nos écoles. Alors, j'aimerais vraiment voir, j'aimerais encourager le gouvernement de considérer fortement une école secondaire dans la région de Toronto-Ouest.
L'école élémentaire catholique du Bonberger demeure la seule école catholique francophone de Toronto à offrir exclusivement des classes de maternelle et de jardin. Elle s'inscrit également dans le réseau du Conseil scolaire catholique Mon Avenir qui regroupe plusieurs écoles élémentaires de langue française à vocation catholique à travers la ville. C'était un reportage d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Bonjour, ici Frédéric Lévesque à Tête à la Baleine au Québec. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.
Classe de 6e année de l'École des découvertes de Fermont au Québec a effectué un voyage hors du commun, en fait une immersion culturelle dans la communauté Innu de Uashat-Mac-Mani-Utenam, près de cette île. Ils se sont ensuite rendus au Salon du Livre de la Côte-Nord. L'aventure a commencé pour les 16 élèves par un voyage en train, le train qui s'appelle Chiuté, un trajet de 7 heures. Ils ont effectué sur ce train un trajet trajet de 7 heures depuis la station Emeril au Labrador. Depuis 20 ans, ce transporteur autochtone facilite les déplacements de passagers qui doivent se rendre dans le nord du Québec. Une fois à destination, ces jeunes ont visité un musée, fait des rencontres. Élisabeth Séguin a rencontré tout ce beau monde à leur retour à Fermont. Ici, Alexandre Paré, Annabelle Aubé, Marshall Poirier, accompagnés de leur enseignante Valérie Castonguay, qui espère, avec ce projet, avoir pu transmettre à sa classe des valeurs d'ouverture, de partage et d'amour de la lecture.
Une classe de sixième année a vécu une expérience immersive culturelle le mois dernier. Les élèves de la classe de Mme Valérie Castonguay sont allés dans la communauté Innu de Ouachat-Macmaniou-Tenam ainsi qu'au Salon du livre de la Côte-Nord. Trois des participants, Alexandre Paré, Annabelle Aubé et Marshall Poirier, étaient dans les studios de CFMF cette semaine pour résumer leur séjour.
Au début, on est allé en immersion culturelle, donc on a fait des activités avec les gens de Première Nation. On a rencontré un chef de bande Innu, Mike McKenzie, puis on a fait une activité dans un chapitre 1 avec Ovila Fontaine.
On est allé au Salon du livre le vendredi matin. En tout, pour les visites scolaires, il y a eu 2594 visiteurs. On a eu l'occasion de rencontrer des auteurs dont Michael Archambault, Alexandra Larochelle, Audrey Archambault et Patrice Auger.
On a aussi pu retourner au Salon du livre le vendredi soir pour rencontrer Patrice Canécal, qui est mon auteur préféré.
Le trio dit avoir eu de beaux moments d'apprentissage et de complicité. Alexandre, Annabelle et Marshall gardent des souvenirs de ce voyage.
Arrive là-bas, t'es un peu fatigué après 7 heures de train. Mais après, quand t'es rendu, t'es content. Puis c'est rare qu'on fait des voyages comme ça à Fermont.
J'ai beaucoup aimé le Salon du livre, mais j'ai aussi beaucoup apprécié le voyage en train entre Emeril et Sept-Îles. Ça nous laisse des souvenirs, ça rend notre sixième année encore plus mémorable, puis ça nous a permis d'être encore plus autonomes.
On a appris beaucoup de choses lors de notre visite au cégep. On a pu visiter plusieurs locaux et ça nous donnait des idées de ce qu'on pourrait faire dans la vie. C'était vraiment un beau voyage. On avait l'impression d'être entre amis, même s'il y avait des adultes.
L'enseignante Valérie Castonguay a souhaité que ses 17 élèves puissent vivre cette expérience culturelle hors du commun et du même coup les sensibiliser aux enjeux et réalités des communautés autochtones. Elle souhaite que l'apprentissage puisse les suivre dans leur cheminement.
J'espère qu'ils vont garder en tête toutes les valeurs d'ouverture puis de respect que j'essaie de leur transmettre depuis le début de l'année puis qui étaient vraiment au cœur de ce voyage-là aussi. Puis outre les apprentissages qu'on leur a fait faire, j'espère qu'ils vont garder en tête tous les beaux moments qu'on a passés, toute la complicité qu'on a développée aussi. On était vraiment un groupe plus uni qu'avant de partir puis on l'était déjà beaucoup, fait que ça a vraiment contribué à ça.
La classe de Mme Castonguay a réalisé ce voyage scolaire à la fin du mois d'avril. Élisabeth Séguin à Fermont pour l'initiative de journalisme local.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous. Merci à nos journalistes cette semaine. Élisabeth Séguin, Gabriel Poulin, Annette Minka, Vincent Lavoie, Alice Zanetta et Daniel Aucoin. Aussi à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. On vous rappelle que l'émission Point de vue et sa sœur anglophone Viewpoints vous sont présentées par le Fonds canadien de la radio communautaire. Boris Chassagne ici à l'animation et à la réalisation qui vous dit merci d'être là. À la semaine prochaine. Ciao!
questions, commentaires ou suggestions, écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.